Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent sabbat. Comment devenons-nous convertis? Est-ce que c'est soudainement, d'un seul coup, ou est-ce que c'est petit à petit? Est-ce que c'est immédiatement ou est-ce que c'est un processus? Et aujourd'hui, j'ai voulu répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous allons regarder les deux aspects de la conversion. C'est le titre de ce sermon. Les deux aspects de la conversion. Le premier aspect a à voir avec un moment précis. D'un seul coup, quelqu'un qui n'est pas converti, et à un moment donné, à un moment précis, il devient converti. Même les disciples du Christ n'étaient pas, les douze apôtres n'étaient pas convertis. Le mot disciple veut dire un étudiant, un élève, un apprenti. Ils apprenaient, c'est-à-dire un apprentissage. Et d'après le lexique grec tailleur, c'est, je cite, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui suit l'enseignement de quelqu'un d'autre. Nous allons donc concentrer dans un premier temps sur cet aspect-là de la conversion. Quand quelqu'un devient converti à un moment donné, d'un seul coup. Nous pouvons regarder, par exemple, la vie de l'apôtre Pierre, dans Luc chapitre 22 et le verset 32. Luc chapitre 22 et le verset 32, si nous regardons le contexte, c'est juste après la dernière Pâque que le Christ a passé avec les apôtres. Et nous lisons dans le verset 32, le Christ qui s'adresse à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, toi Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Il parle d'un événement futur. Ce n'était pas encore arrivé. Quand Pierre sera converti. Verset 33. Pierre pensait peut-être qu'il était déjà converti. En tout cas, il se défend. Verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et bien sûr, les événements ont prouvé le contraire. Le Christ a même donné, il y a cette grande différence entre le fait d'être un disciple, uniquement un disciple, et le fait d'être converti. Les douze, à un moment donné, le Christ les a envoyés avec le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, d'annoncer la bonne nouvelle. Ils sont aussi appelés apôtres. Et Pierre a même dit à un moment donné, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Pierre était aussi présent lors de la transfiguration. Dans Matthieu chapitre 16, le Christ demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Il y a plusieurs réponses qui sont données. Et puis nous arrivons au verset 15. Matthieu chapitre 16 et le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il avait l'esprit ouvert. Du reste, nous avons la réponse du Christ dans le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dieu le Père travaillait avec Pierre à ce moment-là, mais en référence à ce que nous avons lu dans Luc chapitre 22, Pierre n'était pas converti juste avant l'arrestation de Jésus-Christ. Du reste, quand nous regardons la vie de Pierre, quand nous regardons son fort intérieur, si je puis dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que Pierre, à ce moment-là, n'était pas courageux. Nous continuons dans le Luc chapitre 22, et le Christ a répondu, Jésus a répondu, Luc chapitre 22 et le verset 34, une fois que Pierre s'est défendu, verset 34, mais Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Et nous savons ce qui s'est passé. Pierre a utilisé une épée quand le Christ était appréhendé. Simon, Pierre avait une épée, il a tiré, il a frappé le serviteur du souverain sacrificateur et lui a coupé l'oreille droite. Et il a fui, il s'est enfui avec les autres disciples quand le Christ était arrêté, quand tout le monde l'a abandonné et qu'ils ont pris la fuite. Et après, c'est marqué que Pierre le suivait de loin. Nous connaissons aussi ce qui s'est passé avant que le coq chante. Pierre a commencé à faire les imprécations et à jurer. Pour se défendre, il a nié le Christ. Il a nié le Christ trois fois comme le Christ l'avait prédit. Pierre, avant sa conversion, était faible. Et il y a eu un changement spectaculaire dans sa vie. Et il est devenu, à un moment donné, il est devenu converti. Donc, c'est un moment dans sa vie, c'était un moment précis. Il manquait de courage, beaucoup de courage. Il est devenu, à ce moment-là, très courageux. Et le moment quand tout a changé, c'est quand il a reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et l'apôtre Pierre est devenu quelqu'un d'autre. Il a changé. Il est devenu converti. Actes chapitre 2 et le verset 23. Actes chapitre 2 et le verset 23. Il parle ici au peuple. Verset 23. Cet homme, je saute au milieu d'un contexte. Cet homme livré, donc en parlant de Jésus-Christ, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous, il a parlé à la foule, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il était très direct. Il n'était plus comme avant. Verset 36. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache, il revient sur la même chose, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Accusation directe, mais fait avec amour. Chapitre 3, verset 13, c'est ce que Pierre a dit après une guérison spectaculaire. Verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, et qui étaient d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Pierre, à ce moment-là, était direct. Il était courageux et il n'avait pas peur. Il était différent. Il était converti. Verset 19. Il continue sur sa lancée. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et il pouvait parler de conversion maintenant qu'il était lui-même converti, qu'il était lui-même différent, qu'il avait changé. Les événements continuent dans le chapitre 4, où potentiellement ça devient beaucoup plus dangereux, chapitre 4 et le verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, donc les gens qui ont de l'autorité, les sacrificateurs, le commandement du temple et les sadduciens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetaient en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Les choses passent à un autre niveau. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, parce que maintenant il était converti, le dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il était guéri. Il parle maintenant. Il parle à des gens, des autorités qui pouvaient vraiment le faire du mal, le faire souffrir. Verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël sache que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et bien sûr, les autorités avaient une grande part dans la crucifixion du Christ. Que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Pierre avec Jean étaient directs, ils étaient courageux, ils étaient francs, ils n'avaient pas cet esprit de timidité. Ils étaient engagés, ils avaient la conviction. Et Pierre avec Jean leur parlait de leur responsabilité. Quand vous signalez aux autorités qui ont le pouvoir de vous punir, même sévèrement, quand vous leur signalez leur faute, leur crime, vous risquez gros. Mais Pierre et Jean n'ont pas hésité. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais cette fois-ci, il y a une différence. Ils n'étaient pas seulement des disciples, ils étaient convertis. Les autorités se sont délibérées entre eux, et nous voyons dans le verset 18, et les ayant appelés, donc Pierre et Jean, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui y était arrivé. Ils étaient toujours fermes dans leur conviction et dans leur courage. Dans le chapitre 5, nous voyons que les apôtres sont jetés en prison, mais nous voyons aussi qu'un ange ouvre la porte pour les libérer, pour les faire sortir. Ils se retrouvent devant le Sanhédrin, chapitre 5 et le verset 27. Chapitre 5 et le verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeait en ces termes: « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre, verset 29, « Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Il n'avait plus cette peur qu'il avait auparavant. Il y a eu un changement. Verset 30, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Les apôtres n'ont pas reculé. Verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Et ils ont donné leur vie. Presque tous les apôtres ont donné leur vie plus tard. Ils ont été martyrisés. Gamaliel intervient, il donne son point de vue, il donne sa sagesse, et nous voyons la suite dans le verset 40. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. Ils le défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Ils n'ont pas été flagellés comme le Christ était flagellé, mais ils ont souffert. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Cela ne les a pas arrêtés. Ils ont continué à faire ce que Dieu a voulu qu'ils fassent. Vous vous rappelez dans Luc chapitre 22 où il est question de la future conversion de Pierre, que le Christ a dit à Pierre, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Il n'a pas fait ça auparavant, il n'a pas fait ça antérieurement, mais il a pu le faire et il l'a fait quand il était converti, une fois converti. Actes chapitre 9 et le verset 32. Toujours Pierre, Actes chapitre 9 et le verset 32. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Nous pouvons imaginer l'impact sur ce genre d'événement, ce genre de miracle sur les frères de l'Église. Ça ne pouvait qu'affermir leur foi. Ça ne pouvait que les affermir en tant que chrétiens. Et c'est la même chose quand nous continuons la suite. Il y avait le Tabitha dans le verset 36 qui est décédé. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la représenta vivante. De nouveau, ce genre d'événement, ce genre de miracle ne pouvait qu'affermir les frères. Il était maintenant converti et il a affermi ses frères. Il a mis en pratique Luc chapitre 22 et le verset 32. Actes chapitre 10 relate la conversion de Cornée et dans Actes chapitre 11, nous avons des reproches qui ont été adressés à l'égard de Pierre. Actes chapitre 11 et le verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre explique la vision qu'il a eue, la suite des événements, le fait qu'il est allé chez Cornée. Nous avons dans le verset 17 sa conclusion. Verset 17, « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Et verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Pierre, de nouveau, a affermi les frères. Il a affermi leur foi. Pierre a écrit deux épîtres. Nous voyons déjà dans le premier épître son désir, son souhait pour les frères. Dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 10. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Lui qui était un instrument dans les mains de Dieu, lui qui avait la foi, il a partagé sa foi avec eux. Il était convaincu que justement, que Dieu allait les affermir et les rendre inébranlables. Le deuxième épître de Pierre était écrit entre 66 et 68 de notre époque. Nous voyons dans le premier chapitre, à partir du verset 14, qu'il évoque sa propre mort. Verset 14, « Car je sais que je l'acquitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Alors il avait en tête le fait de faire du bien, de faire ce qu'il pouvait aux frères avant son départ. Il parle de la croissance. Toujours au chapitre 1 et le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mentionnées. Un enchaînement, si vous voulez, pour croître. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, ils y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10. C'est pourquoi, étant donné ce que nous venons de lire, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. à affermir votre vocation et votre élection. Et Pierre met l'accent sur le fait que les frères devaient affermir leur vocation et leur élection. Il les encourage à affermir leur vocation. Car en faisant cela, fin du verset 10, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Verset 11, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Le royaume de Dieu, c'est notre espoir. C'est ce que nous cherchons, ce que nous recherchons, c'est notre avenir. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Pierre voulait qu'il soit vraiment affermi. Dans Romains chapitre 8, nous voyons la définition d'un chrétien. Romains chapitre 8 et le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un chrétien a le Saint-Esprit qui habite en lui. Et ça arrive à un moment précis dans sa vie. Mais précise, la Bible précise aussi dans le verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Son combat n'est pas terminé, n'est pas achevé. Il faut qu'il continue à lutter dans sa vie. Mais à un moment donné, quand il reçoit l'Esprit de Dieu, il est converti. Il est converti quand il est baptisé et quand il reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Mais il y a aussi l'autre aspect de la conversion. La conversion se fait aussi graduellement. C'est un processus. Regardons, si vous voulez bien, Hébreux chapitre 5 et le verset 13. Hébreux chapitre 5 et le verset 13. Or, quiconque en est au lait, spirituellement, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et puis, le verset 14 nous détaille une autre catégorie de personnes, une autre catégorie de chrétiens. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement exercé par l'usage, donc ils ont évolué, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La version second 21 parle d'adultes. Donc, il y a les enfants spirituellement et il y a des adultes spirituellement. Et il y a des nouveaux convertis. Parfois, peut-être, vous entendez l'expression que quelqu'un, même dans l'Église, n'est pas très converti. Ou quelqu'un est très converti. Peut-être que vous pourriez entendre aussi l'expression « quelqu'un est plus converti », plus dans le sens de « davantage converti ».« Davantage converti » par rapport à une date antérieure. Et puis, il y a aussi l'expression « quelqu'un n'est plus converti » dans le sens qu'il a perdu sa conversion, qu'il n'est plus converti. C'est ce qui se voit, comme les autres catégories, c'est ce qui se voit aussi par les fruits. Dans Matthieu chapitre 7 et le verset 20, je ne m'y rapporte pas, nous lisons Matthieu chapitre 7, verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Le verset 18 du même chapitre nous enseigne que, et je cite, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. En d'autres termes, nos actions reflètent notre nature intérieure. Si nous sommes bons, nos actions seront bonnes et vice-versa. Il est intéressant dans ce contexte de regarder Jacques. Jacques utilise l'expression « mes frères » ou tout simplement « frères » à de maintes reprises à travers son épître. Nous le voyons dans le chapitre 1, le verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Verset 9, « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. » Nous le voyons dans le verset 16, toujours chapitre 1, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Donc, nous voyons ici l'auditoire de Jacques. Vous trouvez d'autres passages aussi. Je vous laisse le soin de regarder d'autres passages dans une concordance. Et puis, nous arrivons à Jacques chapitre 5 et le verset 19. Jacques chapitre 5 et le verset 19. Toujours cette même expression. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » J'ai voulu vous lire ceci dans la version Shoraki, qui fait ressortir davantage le sens. « Mes frères, si l'un de vous s'égare hors de la vérité, que quelqu'un le fasse retourner, c'est ça le sens, retourner, qu'il le sache, qui fait retourner le coupable hors de la route de l'erreur, sauve son être de la mort et couvre une multitude de fautes. » Du reste, le mot traduit dans la version Shoraki par retourner, c'est le même mot que ce que nous avons déjà vu dans Luc 22, verset 32, où c'est traduit par converti. Donc, pour revenir à ces deux versets dans Jacques chapitre 5, parle du cas de figure où quelqu'un était dans la vérité, la personne s'égare et un autre frère la ramène dans le bon chemin. La conversion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un processus. Nous pouvons dévier de ce processus, nous pouvons nous égarer, mais nous pouvons aussi nous reprendre, on peut revenir vers Dieu et on peut revenir dans le processus de la conversion. Et dans notre vie de chrétien, nous avons tous des domaines où nous avons besoin de retourner vers Dieu, de revenir vers Dieu. Il y a notre conversion initiale, mais nous avons aussi besoin d'approfondir notre conversion, de devenir des hommes ou des femmes mûrs sur un plan spirituel. Nous empruntons tous des mauvaises routes dans nos vies qui ne sont pas les routes de Dieu. Et Dieu veut que nous revenions sur les bonnes routes, les routes de Dieu. C'est un processus, le processus de la conversion. Luc chapitre 17, nous allons commencer au milieu du verset 3 pour situer le contexte. Luc chapitre 17, donc au milieu du verset 3, « Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras, s'il revient à toi. » C'est de nouveau le même mot que nous avons vu dans Luc chapitre 22. Et quand nous péchons, Dieu veut que nous revenions vers lui. La conversion, c'est un processus. Nous trouvons ce principe de revenir vers Dieu aussi dans l'Ancien Testament. Nous le trouvons, par exemple, dans Jérémie. Nous le trouvons dans Jérémie chapitre 3. Ici, dans Jérémie chapitre 3, c'est un genre de plaidoirie de la part de Dieu à l'égard de son peuple. Ils étaient son peuple. Il avait fait une alliance avec son peuple. Dieu voulait garder une relation avec eux. Et nous avons donc dans Jérémie chapitre 3 ce thème à travers le chapitre de revenir vers Dieu pour que cette relation puisse se maintenir. Pour situer le contexte, nous allons lire Jérémie chapitre 3 et le verset 6. Jérémie 3, 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Verset 7. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Verset 10. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi. Vous voyez ici le désir de Dieu, le désir profond de Dieu. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. Verset 12. Va, crie ses paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Dieu pardonne. Dieu est compatissant. Verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sur tout arbre vert. Que tu t'es égaré, que tu as pris le mauvais chemin. Et nous tous, nous prenons parfois le mauvais chemin. Nous nous égarons et Dieu veut que nous revenions vers lui. Verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Il y a un parallèle avec nous, parce que nous aussi, nous appartenons à Dieu. Il est difficile pour nous, les hommes, de reconnaître que nous avons tort, quand c'est le cas. Et l'homme s'éloigne facilement de son Créateur. Il est facile d'oublier Dieu. Verset 21. Une voix se fait entendre dans les lieux élevés, ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel Dieu. Et de nouveau, donc, Dieu implore son peuple. Verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai, parce que Dieu est miséricordieux, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Dieu est notre Dieu. Et à notre époque, bien sûr, il est facile d'oublier Dieu. Il y a tellement de distractions dans la vie moderne. Mais nous avons ici, dans le chapitre 3, un thème, une supplication où Dieu implore son peuple. Ça continue même dans le chapitre 4, verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Je ne veux plus que nous soyons égarés pour notre propre bonheur. Ézéchiel, chapitre 18, nous donne plus de précision à propos de ce deuxième aspect de la conversion. Ézéchiel, chapitre 18, et le verset 32, nous voyons ici le grand souhait de Dieu. Ézéchiel, chapitre 18, et le verset 32. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Convertissez-vous donc et vivez. Prenez le chemin qui mène à la vie. Verset 5, toujours chapitre 18, et le verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture, la justice. Et ensuite, il y a une liste de choses que le juste, parce qu'il est juste, ne fait pas. Verset 8. Et ne tire point d'usure qui détourne sa main de l'iniquité. Qui détourne sa main de l'iniquité, c'est quelque chose qui, dans la vie de quelqu'un qui est juste, qui est continu, c'est en cours, c'est un processus. Et dans cette période de l'année, nous nous sommes examinés pour voir l'iniquité, pour voir le péché qui existe encore dans nos vies, pour pouvoir nous repentir avant la Pâque, pour emprunter le bon chemin, pour continuer notre processus de conversion. Le verset 27 parle du méchant. Verset 27, « Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. » Telle est la miséricorde de Dieu. La version Martin dit ceci pour ce verset, le verset 28. Ayant donc considéré, entre parenthèses, sa conduite, et s'étant détourné de tous ses crimes qu'il aura commis, certainement il vivra, il ne mourra pas. Il y a un processus de réflexion avant de se détourner de ce qui est mauvais. Verset 29. Verset 29. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Nous devons toujours comparer nos voix avec la voix de Dieu. Et ça, c'est déjà un processus continuel. Le processus de conversion. Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. La voie de Dieu, c'est le fait aussi de se détourner de nos péchés. C'est aussi cela, la conversion. Dans ce chapitre, Dieu détaille, Dieu illustre les transgressions, les iniquités. Et puis parle aussi, donc, dans le verset 30, de votre ruine. Je m'y rapporte pas non plus. J'ai voulu simplement citer Proverbes chapitre 21 et le verset 15. Par rapport à ce que nous venons de lire, Proverbes 21, verset 15, c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal empruntent le chemin de la ruine. La version Ostevat dit ceci, Donc au milieu de verset 30, convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions. Convertissez-vous. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il s'agit d'un changement profond et radical. Et la conversion a à voir avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et je termine donc avec le verset 32 que j'ai cité tout à l'heure. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. » La conversion, c'est aussi un processus. Se convertir, c'est aussi le fait de se détourner du péché, et c'est là un processus continuel. Il y a un autre aspect de la conversion que nous trouvons dans Romains chapitre 12 et le verset 2, si vous voulez y rapporter. Romains chapitre 12 et le verset 2, où l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est déjà un but qu'il nous faut avoir dans la vie en tant que chrétien. « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Puis ensuite un autre but. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est aussi quelque chose que nous devrions rechercher. Et dans certains domaines, ça peut être un grand défi pour nous de faire la volonté de Dieu. Nous voyons dans la prière modèle déjà que le Christ en parle dans Matthieu chapitre 6 et nous allons commencer à lire à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6 et le verset 9. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Donc la prière, une prière modèle pour nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est aussi quelque chose que nous devrions rechercher dans nos vies personnelles, de chercher la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Nous pouvons être tentés de faire notre propre volonté plutôt que de rechercher la volonté de Dieu. Nous avons bien entendu l'exemple suprême du Christ, juste avant la crucifixion, sachant ce qu'il attendait, les tortures, la crucifixion qu'il allait endurer. Personne voulait souffrir de la sorte. Et face à cette situation intense, extrêmement intense dans sa vie, il a prié en ces termes: « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » La conversion, c'est aussi le fait de rechercher dans nos vies personnelles la volonté de Dieu, de soumettre notre volonté, notre propre volonté, à la volonté de Dieu. J'ai voulu terminer avec 1 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous sommes convertis à un moment donné, mais c'est aussi un processus. Verset 10, qui va donc de pair avec ce que nous venons de lire dans le verset 9, verset 10, et pour attendre des cieux son Fils, nous attendons le retour du Christ, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et nous sommes délivrés de la colère à venir parce que nous sommes convertis. Je vous souhaite une Pâque pleine de signification et une très bonne fête des pains sans levain.